Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
À l'écoute de RDWA sur le 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr. Depuis le QG du festival Partir en Livre avec Ramona et Benoît. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Qui fait quoi dans cet ouvrage qui s'appelle Par hasard ?
Je fais la partie dessin, ou plus exactement encre, peinture.
Et moi j'écris.
Et t'es pas arabe, Ramona ?
Alors non. Non seulement je ne suis pas, j'ai aucune origine arabe, mais en plus je ne parle pas cette langue, je ne l'écris pas. Et pourtant c'est vrai que le livre est bilingue, français-arabe.
On peut le lire dans les deux sens.
Oui, puisque le sens de lecture de la langue arabe est le sens contraire de la langue française, c'est-à-dire qu'en français, nos yeux sont de toute façon habitués de lire de gauche à droite, alors qu'en arabe c'est de droite à gauche. Et l'éditeur, l'éditrice Mathilde Chèvre, qui s'occupe de cette petite maison d'édition marseillaise qui s'appelle Le Port à Jauny, qui publie beaucoup de poésie bilingue français-arabe, justement pour tisser des ponts autour de la Méditerranée et pour que des gens qui sont soit bilingues, soit qui ne parlent que l'une des deux langues, puissent se rencontrer et puissent partager des livres en commun. Voilà, elle a créé cette maison d'édition et donc tous les livres sont bilingues français-arabe, quand bien même les auteurs ne parlent pas l'une des deux langues.
Donc c'est traduit après coup ?
C'est toujours traduit après coup, donc soit c'est des poèmes qui viennent du patrimoine ou des poèmes contemporains arabes qui sont traduits en français, ou des poètes et des poèmes français qui sont traduits en arabe. Il y a toujours le travail d'un passeur, d'une passeuse, d'un traducteur, d'une traductrice dans cette aventure-là.
Est-ce que vous pourriez vous présenter l'un l'autre ? Qui vous êtes ? D'où vous venez ? C'est quoi votre parcours ? Ramona Badescu, comme ça qu'on dit ?
Non, il n'y a pas de « ch », c'est Badescu. Alors, moi, je suis roumaine d'origine. Je suis arrivée en France à 10 ans. J'ai fait des études de théâtre. Ça m'a amené à pas mal réfléchir sur des questions de représentation, mais aussi sur des questions de langue, de langage. J'écris depuis toujours, mais ça s'est toujours mêlé à des questions d'image. Donc j'ai écrit pour le théâtre, j'écris toujours pour le théâtre. Je travaille aussi en photographie, en cinéma documentaire. Et puis voilà, l'espace du poème, de la poésie est un espace que j'affectionne beaucoup, même si la plupart de mes livres, enfin les livres que les gens connaissent le plus dans mon travail, sont des livres, des albums de littérature jeunesse, puisque je publie depuis 18 ans des livres en littérature jeunesse, et puis depuis peu en tant que traductrice, mais de l'anglais vers le français.
Qu'est-ce qu'on pourrait connaître en littérature jeunesse ?
Ce que les gens connaissent le plus de mon travail, c'est la série Pomelo, c'est un petit éléphant rose avec une grande trompe, qui vit sous un pissenlit au départ, dans un jardin potager, qui se pose des questions existentielles avec une myriade d'amis, d'insectes, une grenouille, un escargot. Voilà, c'est des ouvrages que je fais en duo avec Benjamin Chaud, qui est Diwa, et qu'on fait ensemble depuis 18 ans maintenant. Et ce sont des livres qui, effectivement, par leur temporalité, vu que ça fait 18 ans qu'on fait ces livres-là, forcément, il y a des générations d'enfants qui les ont connus et d'adultes, mais aussi au niveau international, parce que c'est des livres qui sont maintenant traduits en une quinzaine de langues, et c'est vrai que voilà, c'est l'aspect le plus connu de mon travail.
Benoît Guillaume.
Alors, moi, j'ai grandi à Brest, en Bretagne, avant de partir un petit peu plus tard pour Paris, descendre progressivement vers le sud, Valence, un temps, Marseille où j'habite, où on habite tous les deux avec Ramona. À présent, on est voisins. Moi, je dessine depuis que je suis vraiment jeune. Je sais pas, je me rappelle plus à quel âge j'ai commencé, mais enfin, comme tous les enfants, j'ai dessiné un peu comme un fou petit et je me suis jamais arrêté. Voilà. Donc, assez tôt, j'ai voulu en faire un métier. Je me suis vu auteur de bande dessinée un peu plus tard. Influencé par les avis adultes, etc. Je me suis plutôt vu quelque chose de concret, dessinateur publicitaire, chose qui
c'est concret la pub?
Non, pas du tout. Mais juste quand on est à un certain âge, le discours adulte, ça va être faut que tu fasses un truc sérieux. Donc là, ce qui peut un peu mieux marcher que juste artiste, ça va être quelque chose comme ça. Et je me suis retrouvé dans une école qui formait plus au métier de graphiste. Et en sortant de là, j'ai travaillé comme graphiste et c'était effectivement un peu pour la pub. C'était pas du tout ma passion, donc j'en suis sorti aussi vite que j'ai pu pour me consacrer vraiment à l'édition. Et graphiste, c'est un métier que je fais presque plus. Maintenant, j'ai rejoint un petit peu mes désirs d'enfant là, avec plusieurs livres de bande dessinée que j'ai fait. Mais ça s'étend, ça se diversifie pas mal, hein, ce qui est vraiment une bonne chose. Une des pratiques que j'ai fait depuis que je suis en école d'art, c'est le croquis. Et le croquis, au début, ça peut être comme une sorte de une manière de garder la main, une sorte d'entraînement, enfin d'apprentissage du dessin, et ça peut devenir vraiment quelque chose d'intéressant en lui-même. Donc c'est du dessin en extérieur, c'est ce qu'on fait dans ce livre Par hasard, par exemple, mais c'est ce qui m'amène aussi à faire des dessins que j'expose, à faire des reportages en bande dessinée sur des sujets un peu concrets. Là, par exemple, j'ai fait pour la revue dessinée, qui est une revue de reportage en bande dessinée exclusivement. Je viens de terminer un travail autour d'un McDonald's à Marseille.
Ce fameux McDonald's qui est indépendant maintenant.
Ouais, qui est devenu l'après-m.
Banque populaire.
Ouais, très récemment, qui depuis le début du confinement était un centre de distribution pour l'urgence alimentaire. Et ça, c'est arrivé après quelques années de lutte syndicale. Donc ça, c'est un travail que je fais en collaboration avec un journaliste. Et c'est pas du tout ce que j'imaginais quand j'étais ado. Voilà, je suis juste ravi que le dessin puisse amener à ça.
Parce que t'es pas militant?
Je m'appelle pas comme militant, mais je m'intéresse toujours à ces causes-là. Donc. Oui, je dois l'être un petit peu, mais je sais pas, c'est un grand mot militant, ça m'impressionne un tout petit peu.
À quel moment vous vous rencontrez et pourquoi ce travail?
On s'est rencontrés depuis longtemps puisqu'on vit tous les deux à Marseille et qu'on a des amis en commun, que Benoît travaille dans un atelier qui s'appelle l'atelier du Bénoir, rue du Bénoir à Belzunce, où plusieurs amis illustrateurs travaillent aussi. Donc je connaissais un petit peu Benoît, mais on n'avait jamais travaillé ensemble. Et c'est sur la proposition de notre éditrice, Mathilde Chèvre, qu'on est parti en résidence dans le nord du Maroc, à Tétouan, pendant 3 semaines, avec l'Institut français de Tétouan, dans un très beau riad du 19e siècle qui est au cœur de la Médina et qui est devenu maintenant un lieu de résidence artistique. Et ça a été l'occasion, en fait, de passer du temps ensemble. Et donc, j'avais proposé ce jeu, en fait, de travailler autour du hasard, puisque ni Benoît ni moi ne connaissions le Maroc, encore moins la ville de Tétouan. On ne parle pas arabe ni l'un ni l'autre. Tétouan fait partie de l'ancienne enclave espagnole, et on ne parle pas espagnol non plus. Donc, ça faisait qu'on était quand même assez limité en termes d'échange, en tout cas verbal, avec les gens. Donc on s'est dit que peut-être la manière la plus simple, la plus sensorielle, la plus immédiate de rentrer en contact avec le lieu et puis de mettre en jeu aussi des choses de l'écriture et du dessin, puisque je connaissais le travail de Benoît, de ses croquis en extérieur, de son travail de peintre comme ça en extérieur, qui m'a toujours beaucoup, beaucoup plu. Je me suis dit, rencontrons-nous autour de nos outils communs, dans un lieu qu'on ne connaît pas, où tout nous est étranger, où nous-mêmes sommes complètement étrangers à ce lieu. Et donc, j'ai proposé cette règle du jeu qui était de s'arrêter ensemble, traverser la ville, rencontrer ce qu'on pouvait rencontrer. Et quand on était intrigué par un lieu, qu'on puisse y rester suffisamment de temps. De toute façon, le temps de peinture de Benoît est long. Le temps de l'écriture est quand même un petit peu différent. Mais c'était une manière aussi de se dire on peut rester soit côte à côte, soit dans des lieux différents, dans ce même lieu, dans des espaces différents, en face, dos à dos, on ne se voit pas forcément. De fait, on est resté quand même beaucoup côte à côte à discuter, à observer. Et à partir de ces observations, moi, je prenais des notes et Benoît faisait ses illustrations. Et on a décidé de chercher là où le hasard pouvait nous mener. C'est-à-dire des endroits qu'on pouvait anticiper. Dans toutes les villes, il y a un marché. Dans toutes les villes, il y a des rues. Dans toutes les villes, il y a des cafés. Mais aussi se laisser entraîner. Par exemple, j'avais pas du tout prévu qu'on aille dans le cimetière. Bien qu'il y ait des cimetières dans toutes les villes. Mais en apprenant que, par exemple, il y a un grand... passer de la cohabitation entre juifs et arabes dans ce lieu-là et qu'il y a un vieux cimetière juif, j'étais assez intriguée et on s'est dit, mais oui, allons voir ce qui se passe là-bas, comment on voit la ville depuis ce lieu-là. Et puis, il y a des interactions qui se passent avec les gens. Et donc, ce livre, il s'est construit autour de cette idée de hasard, de passer suffisamment de temps dans un lieu. Ce qu'on fait peu quand on est touriste, puisqu'il faut aller vite, voir beaucoup de choses. Des lieux sont très repérés. Et là, on s'est dit, on va voir ce que vont voir les touristes et ce que ne vont pas voir les touristes. On est sorti des ruelles de la Médina, on est allé dans des endroits très populaires où les gens étaient un peu surpris de nous voir nous installer là pendant des heures. Mais il n'y a rien à voir ici. Et en fait, il y a tout à voir. C'est là où la vie se passe. Donc, ça a été un peu ça, la manière dont on s'est rencontrés. Ce livre, ça a vraiment scindé cette collaboration. Et puis, ça a donné lieu à une collaboration qui, maintenant, s'inscrit sur une forme de régularité, puisqu'on a envie d'inventer des nouvelles formes de jeu entre le réel et ses représentations écrites et dessinées.
Y a-t-il vraiment un hasard quand la maison d'édition Le Port à Jauny vous rassemble dans un lieu que vous ne connaissez pas? Est-ce que ce n'était pas un peu fait pour qu'il se passe quelque chose?
Oui, c'est un choix de la part de notre éditrice. Même si au tout début, son intention était qu'on travaille sur des projets différents, on a vite discuté et échangé notre fusil d'épaule. Mais ouais, bien sûr, Mathilde, son travail aussi, c'est de faire des duos. Ce qu'elle fait pour des livres ou pour des résidences, comme dans ce cas-là.
Et du coup, vous savez si elle a repéré que votre travail pouvait fusionner, en fait? Enfin, comment elle sait, d'où ça vient?
Mais je crois qu'on lui a dit, en fait. Oui, moi je lui ai dit tout de suite que j'adorais le travail de Benoît et que ça m'intéresserait de travailler avec lui. Mais c'est ça, en fait, ce qui est très chouette dans cette aventure avec Le Port à Jauny. C'est que c'est une minuscule maison d'édition associative, ce qui est déjà assez rare, et qui ouvre la porte au possible. Et ça, c'est vraiment réjouissant pour nous, en tout cas en tant que créateurs, de se dire on va inventer des choses et elles peuvent être reçues dans cet espace éditorial. Ce qui n'est pas forcément le cas dans les grandes maisons, ou parfois ça peut l'être aussi, mais en tout cas, ça peut être beaucoup plus long. Là, il y a une souplesse et une réactivité et une liberté, une autonomie en fait de chacun dans ce travail. Et ça, c'est réjouissant.
Quand on ouvre cet ouvrage par hasard, ce qui frappe tout de suite, Benoît, c'est la couleur, j'allais dire la force de cette couleur. On a l'impression que déjà, on s'imagine bien qu'il faisait bien beau, bien chaud, tout ça. Mais c'est vraiment, ça brille, ça saisit. Comment tu travailles ?
Pendant vraiment un certain temps, j'ai travaillé dessin en extérieur et c'était un outil très simple, hein, juste crayon ou porte-mine, critérium, pour pouvoir vraiment saisir très rapidement tout ce qu'il y avait de vivant autour de moi. Enfin,
en noir et blanc, du coup.
En noir et blanc. Et j'ai vraiment appris beaucoup par ce moyen-là, parce que je me postais dans des rues, alors des rues parisiennes ou autres, avec une espèce de bouillonnement que j'avais envie de saisir sur papier. Et donc j'avais besoin d'être au milieu de tout ça, avec un moyen assez efficace. Donc j'ai travaillé longuement comme ça, et puis un jour j'ai voulu passer à la couleur pour changer, essayer un petit peu autre chose. Ça fait partie des luxes de notre métier, quoi, d'avoir quand même beaucoup d'outils à notre disposition. Donc j'ai fait de la gouache, un jour je suis passé aux encres, maintenant j'alterne entre les deux, le résultat est un peu similaire. En tous les cas, moi, ça me permet de ne pas savoir vraiment où je vais, c'est-à-dire que je peux m'inspirer de façon réaliste des couleurs du réel, mais ce que je fais effectivement pas très souvent. C'est quand même un des plaisirs de pouvoir chercher, et en couleur, il y a des tonnes de façons de travailler différentes, d'accords possibles. Je peux assez souvent rester sur une palette très limitée, 2-3 couleurs et des choses assez vives. Pour revenir à ce livre, par hasard, c'était d'une façon ma manière de travailler habituelle, et d'une autre façon, c'était différent. Le fait qu'on soit ensemble avec Ramona à travailler côte à côte, chacun dans son domaine, c'était nouveau pour moi. C'était vraiment la première fois que j'expérimentais. Et j'ai laissé beaucoup plus de blanc, de lumière, de réserve, en fait. J'ai laissé de la place très concrètement dans mes pages pour y insérer du texte. Ça, c'est quelque chose d'un petit peu un peu basique au niveau mise en page, mais qu'il fallait. Et ça apporte un esprit un petit peu différent de ma pratique habituelle. Si on regarde les pages de garde, là, je suis tout seul et c'est plus proche de ce que je peux faire habituellement. Donc voilà, ça, c'était des dessins que j'ai fait le reste du temps sans penser à les insérer au final dans le livre. Mais Mathilde, à la fin, Mathilde, notre éditrice, à qui on donne tout le matériel, Ramona lui donne une flopée de textes et elle doit y faire un choix. Moi, je lui donne toutes mes images du séjour au Maroc. Et c'est elle ensuite qui dit « Tiens, mais ça, c'était peut-être pas pensé pour le livre, mais ça pourrait marcher. » Et voilà, elle a ce rôle final de sélection, un peu comme le monteur d'un film, qui est vraiment utile. C'est-à-dire que moi, revenant du Maroc, j'étais un peu perdu. Je pense que je ne savais pas trop si j'avais amené assez de choses, si ce livre allait fonctionner. Et c'est elle qui travaille un temps et on regarde, on découvre. Et ça, ça fait vraiment partie du plaisir. Enfin, pour moi, c'était une façon de travailler nouvelle aussi, hein, sachant que d'habitude, souvent, j'ai travaillé sur des bandes dessinées où j'étais soit seul à bord, soit avec un scénario de quelqu'un d'autre. Et je m'occupe d'une grosse partie, mais en tout cas, il n'y a personne qui finalise. C'était toujours moi qui le faisais. Et c'est vachement enrichissant d'avoir le regard extérieur d'une troisième personne, là, dans ce cas.
Là, en fait, ce qui était un petit peu en décalé avec nous, notre temps de travail, c'est qu'on était vraiment dans le même lieu, au même endroit, au même moment. Il y avait cette espèce d'unité. Donc les textes que j'ai écrits étaient en rapport avec des images aussi que Benoît avait fait. Mais au montage du livre, par la sélection des textes de Mathilde et des images qu'elle sélectionnait, elle a créé d'autres combinaisons, en fait, qui sont effectivement qui trichent un peu avec le réel, parce que c'est parfois pas forcément l'image qui a été faite au même endroit que le texte, ce qui était dans notre processus de création, mais qui fonctionne mille fois mieux ensemble, en rapport. Donc elle, qui n'était pas dans le lieu avec nous, a cherché plutôt dans l'espace du livre comment elle pouvait recréer cette sensation et ce rapport entre les images et le texte, mais aussi les images dans leur déroulé. Enfin, ce que tu disais, comment la lumière saisit en ouvrant le livre, c'est aussi une construction de page en page. Et ça, c'est effectivement, c'est avec Mathilde qu'on réfléchit à ça. Après, c'est assez ouvert puisqu'on échange tous les trois sur la composition du livre. Mais c'est très aidant. Effectivement, moi, j'ai écrit beaucoup plus que ce qui est dans ce livre. Et c'est ça qui nous a donné envie aussi de faire cette lecture musicale et dessinée qu'on va jouer ce soir au Théâtre de Die, d'y associer aussi un musicien qui n'était pas avec nous dans cette aventure-là, qui pouvait apporter un contrepoint musical, sonore, qui n'est pas forcément une illustration du lieu, mais qui est une autre construction avec nous, dans un autre temps. Mais par contre... moi, je suis allée repêcher d'autres textes qui ne sont pas dans le livre. Donc, dans la lecture, il y a à la fois tous les textes du livre, plus des textes qui n'ont pas trouvé leur place dans le livre, mais qu'on aimait bien quand même.
C'est intéressant ce que tu disais tout à l'heure, Benoît, le fait de dessiner pour laisser la place au texte. Est-ce que toi, t'écris pour laisser la place au dessin ?
J'essaye de pas trop penser à ça en écrivant, parce que c'est quand même... enfin, l'idée c'est plutôt de laisser libre cours aux choses et ensuite de recomposer. Mais dans cette deuxième phase où je recompose, évidemment que j'essaye de ne pas doubler l'image. Et si le point de vue de Benoît appuie quelque chose très fort, je ne vais pas le réappuyer dans le texte. Et je préfère enlever des choses du texte pour laisser cette place-là à l'image. Mais parfois, ce n'est pas nécessaire parce qu'on a déjà deux points de vue très différents et c'est l'association des deux que va faire le lecteur, la lectrice, en les associant ensemble dans le temps de la lecture, qui vont créer quelque chose d'inédit, en fait.
Et c'est là que c'est assez étonnant. Enfin, moi, en tout cas, après avoir lu ce livre, j'avais l'impression d'avoir visité cette ville. Non, mais il y avait un côté hyper descriptif, finalement, même dans ta prose. Les dessins aussi sont quand même si c'est du croquis, très, très explicite. Vous pensiez faire un guide touristique ou...
Alors, je crois qu'on n'a pas trop réussi à faire un guide touristique quand même, mais c'est un guide plutôt sensible, sensoriel de la ville. Moi, ça me réjouit qu'à la fin de cette lecture, les gens se sentent un petit peu de l'aventure avec nous, un petit peu familiers d'un lieu qui pourrait leur être étranger. Et il y a même une dame un jour en dédicace qui m'a dit « Oh là là, mais j'ai lu ce livre, et tous les ans je vais au Maroc, je ne suis jamais allée à Tétouan, et là, vraiment, la prochaine fois, je vais à Tétouan parce que j'ai envie de retrouver les endroits que vous décrivez dans le livre. » Et après, c'est des endroits, on est dans le quotidien en fait, hein. On n'est pas dans des endroits exceptionnels, on est vraiment sur le marché, au café. Et puis il y a parfois des petits moments exceptionnels, je veux dire quand on est au café, qu'il ne se passe rien, qu'on regarde un match de foot et que tout à coup il y a une procession funéraire qui traverse la rue, c'est saisissant et tout à coup ça nous apparaît, et puis tout à coup on le met en lumière dans le texte, dans l'image. C'est plutôt ça qu'on essaye de créer. Mais si on arrive à embarquer les lecteurs avec nous dans ce point de vue un peu particulier sur la ville, c'est super.
Est-ce que vous l'avez magnifié ? Est-ce que tu l'as magnifié, cette ville, Benoît ?
Je ne sais pas. Il y a quelque chose dans le texte et dans l'image qui s'attache à la poésie, ce qu'on y trouve beau. Enfin, effectivement, peut-être que c'est magnifié d'une certaine façon. Après, souvent, moi, dans ma façon de travailler, je vais m'intéresser vraiment aux marges, à chercher les endroits un peu plus terrain vague, un peu plus des choses anecdotiques. J'ai l'impression que Ramona aime aussi écrire sur un peu l'anecdotique, un petit peu les moments entre deux où il ne se passe pas grand-chose, où on est là à dessiner ou écrire sur des marches d'escalier un endroit pas spécialement, voilà, pas spécialement remarquable. Et puis un vieux monsieur arrive, communique avec nous comme il peut parce qu'on n'a pas la langue en commun. Il nous invite chez lui, il nous fait savoir ça. On commence à lui dire non parce qu'on est en train de travailler. Et puis il revient un peu plus tard, il insiste, on finit chez lui. Et voilà, on écrit on dessine et écrit un texte et une image à partir de ça. Non, je ne sais pas, moi j'ai toujours été un petit peu repoussé par les zones trop touristiques, les beaux monuments qu'il faut voir dans un endroit. Après, il n'y en avait pas spécialement à Tétouan. Ce qui est plus majestueux, c'est le paysage de montagne. On est entouré par les montagnes du Rif. Ça, c'est vraiment hyper prestigieux. Il y a une citadelle tout en haut de la ville qui était quand même une citadelle connue pour avoir accueilli Franco et son armée à l'époque. On ne s'est pas attardé là-dessus non plus. Petite ville sans histoire, en fait. Sans trop d'histoire, il y en avait un petit peu. Les gens nous parlaient de la mauvaise réputation de Tétouan, qui était un petit peu une vie de bandits. Après, je ne sais pas, j'ai lu Mohamed Choukri, qui a écrit Le Festin Nu, un auteur marocain assez connu, vraiment de mauvaise réputation, qui a grandi là et qui raconte un petit peu les bas-fonds de cette ville, mais qu'on ne voyait pas trop. Ouais, c'était des choses qu'on pouvait peut-être un petit peu sentir, mais on avait quand même cette posture de touriste et d'étranger qu'on assume. Hein, je veux dire, on a passé moins d'un mois, quelques semaines dans cet endroit. On en a fait un livre, ce qui est de la poésie. Mais on n'est pas là pour décrire plus profondément que ce qu'on sait et ce qu'on sent.
J'ai lu il n'y a pas longtemps dans un article que 90% des touristes visitent 2% des terres immergées. Ça m'intrigue en fait. Hein. Qu'est-ce que c'est cette époque qui normalise tellement les choses à faire, les choses à voir, nos conceptions de ce qu'est l'autre, de comment on cherche ailleurs ce qu'on connaît déjà. Et en fait, peut-être que ce qui différencie l'expérience qu'on a choisi de vivre et de retranscrire dans ce livre d'une expérience touristique, c'est qu'on a choisi de ne pas aller voir ce qu'il y aurait d'exceptionnel, mais plutôt ce qu'il y a dans la vie des gens. De quoi est faite la vie des gens? Nous, notre question, c'est mais comment on vit ici? Comment sont les arbres? Comment sont les pierres? Comment, à quoi jouent les enfants? Quels animaux habitent cet espace? Quelle est la qualité du soleil? Et plutôt de retrouver une forme de quotidien, une forme de récurrence dans la vie et dans le rythme de la ville, plutôt que la chose exceptionnelle. Voilà, ça je crois que c'est quelque chose qu'on essaye de... En tout cas, on y est attaché de manière différente, mais c'est un vrai point commun entre Benoît et moi. C'est-à-dire que moi, dans mon écriture, quel que soit l'espace d'écriture ou de représentation, je m'intéresse aux petites choses. J'ai du mal à m'intéresser aux très grandes choses. Je ne pourrais pas faire un livre sur un grand monument d'architecture, ou alors je le ferai à partir du point de vue des chiens. C'est peut-être pour ça aussi que je me retrouve beaucoup en littérature jeunesse, parce que je partage avec les enfants le point de vue plus bas. Je n'arrive pas trop à regarder les choses de tout en haut et du point de vue conquérant. J'aime bien... Aussi parce que j'ai grandi dans une petite ville où il ne se passait pas grand-chose. Et j'ai grandi avec des gens, des paysans, des artisans qui étaient attachés et qui ont pétri aussi mon imaginaire et ma curiosité du monde, de la nature, de la matière, des choses, du quotidien. Et en fait, je crois que ce monde moderne qui nous propose quelque chose de lisse, de brillant, d'une forme de vacuité aussi, le monde du supermarché, mais très étranger, en fait. Et c'est, pour moi, la difficulté serait plus ça que de travailler dans un espace où le quotidien, les gens s'expriment. Et c'est ce qu'on a eu envie ensuite de continuer avec Benoît, puisqu'on a eu cette expérience avec Par Hasard à Tétouan, qui a ouvert notre collaboration. Mais depuis, on a fait un autre livre qui s'appelle Bus 83, où là, on a plutôt décidé d'inviter les gens dans notre ville, qui est Marseille. Et je n'avais pas très envie non plus de faire un livre touristique sur Marseille. Donc on propose comme expérience de s'embarquer à bord du bus 83, qui est le bus qui fait le tour de la corniche Kennedy et des plages, en plein été, le moment où le bus est bondé, où il fait chaud, où des tas de touristes, d'enfants, de gens, de bouées, de tout ça cohabite dans un espace exigu qui est celui du bus 83. Et donc avec Benoît, on a tourné et tourné et tourné sur les lignes du bus 83, comme ça, l'été, le matin, la nuit, le jour, jusqu'à épuisement en fait de notre perception de Marseille en mouvement par la corniche. Et les poèmes qui en sortent aussi sont des moments, soit des moments du bus, soit aussi des moments qui sont les arrêts des bus. On a suivi les gens aux arrêts des bus et ça a donné lieu à un poème à chaque fois qui a le nom de cet arrêt-là du bus.
Et tu dessinais dans le bus ?
J'aime bien les challenges, les situations. Non, j'aime bien dessiner dans les situations un peu inconfortables. C'est un,
je te conseille le télésiège, par exemple, un jour où il y a de la neige.
Ouais, complètement. Non, mais c'est, je veux dire, quand on dessine tout le temps, il faut bien sortir un petit peu de sa zone de confort. Ouais, le bus tremble, surtout à vide. Quand il est plein, ça va déjà mieux. On avait la chance d'être là depuis le début de la ligne, donc on avait souvent une place assise, hein. Parfois côte à côte, parfois éloigné à deux zones différentes du bus. Et puis j'ai quand même choisi de laisser mes encres à l'atelier, de passer au feutre pour dessiner sur place. Et ça m'est aussi arrivé de dessiner au crayon, comme voilà, que ce que je racontais sur ma pratique passée, et de reprendre certaines images de retour à mon atelier au feutre aussi. Mais voilà, non, il fallait juste faire quelque chose de faisable.
Le côté tremblant, est-ce que ça t'a permis un nouveau style graphique ?
Je sais pas. Ce sont des images qui vont un peu plus à l'essentiel, parce que justement, cette technique, le feutre, me permet un peu moins de subtilité que les encres et la peinture. Et il y a un truc qui peut paraître plus simple, mais qui peut être plus direct et assez intéressant aussi, quoi.
Des images de ce livre qui sont exposées au Théâtre de Die.
Justement, sur ce texte, ces textes, Ramona, est-ce que tu penses toucher à l'authenticité d'un lieu ? Est-ce que vous avez des retours des habitants ?
Alors, des habitants, on n'en a pas eu. Par contre, on a eu des retours très émus, par exemple de couples mixtes ou de gens qui ont vécu au Maroc ou qui ne connaissaient pas forcément Tétouan en particulier, mais... oui, j'ai eu un homme qui avait quitté le Maroc et qui gardait cette nostalgie de son pays natal et qui m'a dit, mais vraiment, ça m'a replongé exactement, ça m'a ramené chez moi. Et ça, c'est vraiment précieux. Pour moi, c'est un bon indicateur. Si quelqu'un du lieu me dit, j'ai retrouvé, vous m'avez ramené chez moi, c'est hyper précieux. Après, pour Bus 83, Marseille, on connaît assez bien, c'est vraiment notre ville. Moi, j'y habite depuis plus de 20 ans. Donc, j'essaye aussi, forcément, dans l'écriture, il y a le moment présent. J'essaye vraiment d'attraper des choses de ce moment-là en particulier. Par exemple, les figures adolescentes. Il y a un poème sur un groupe d'ados qui parle au fond du bus. Ça m'a saisie. Il parle d'armes. Et ils nomment des armes que je ne connais absolument pas, pas seulement parce qu'on est à Marseille, mais parce qu'ils ont une culture du jeu vidéo que moi je n'ai pas, que les ados avec qui j'ai été adolescente, on n'avait pas ce genre de discussion. Et donc, du coup, voilà, j'essaye d'attraper des éléments comme ça, concrets, que le réel me renvoie. Mais forcément, dans la rythmique, dans le phrasé, dans le souffle de l'écriture, c'est mon rythme propre. Donc forcément, il y a quelque chose de reconnaissable et quelque chose de singulier. Après, nous, notre nouveau défi là maintenant, c'est qu'on vient de faire une résidence en Égypte. On a eu la chance d'être invités en résidence tous les deux pour faire un nouveau livre. Et ça, c'est très beau quand on nous fait ce genre de proposition, dire bah, vous avez carte blanche. Si vous venez en Égypte, qu'est-ce que vous aimeriez faire comme livre ? Et on a eu la chance de passer 5 semaines au Caire, à Alexandrie, dans l'oasis du Fayoum et à Louxor, dans un moment où c'était un moment de confinement en fait. En France, on est parti juste avant le second confinement qui a été décidé quelques jours après notre arrivée en Égypte. Mais du coup, c'était des conditions très singulières. Puisqu'un pays très touristique, on allait sur des lieux très touristiques, notamment à Louxor, où il n'y avait aucun touriste. Il y avait les gardiens des temples et nous, et quelques touristes égyptiens ou quelques expats qui étaient là. Mais c'est des sensations extrêmement particulières, extrêmement fortes, puisque notre proportion par rapport aux temples et par rapport aux sculptures, mais aussi le rapport aux gens, est très modifié par les conditions du moment. Et ça, on ne peut pas le décider. En fait, on aurait voulu l'anticiper, on n'aurait pas pu. C'est un moment où le monde bascule, on est dans ce moment où les choses s'évident. Et nous, on est là, à ce moment-là. Et donc, là, c'est sur ça qu'on travaille en ce moment. C'est sur ce troisième livre.
Si ça avait été bondé, vous n'y seriez pas allé ?
On n'avait pas prévu d'aller à Louxor, en fait. C'est bien parce qu'il y avait le confinement en France. Notre résidence devait durer 3 semaines. Et puis, on a décidé. Et puis, les gens sur place nous ont dit, OK, vous pouvez rester un peu plus. On a prolongé de 2 semaines. Et ça nous a permis de faire ce long voyage en Haute-Égypte, où c'est quand même 10 ou 11 heures de train. Et donc, on n'avait pas prévu ce temps-là dans les 3 semaines qu'on avait. On avait déjà pas mal de déplacements entre le Caire et Alexandrie, plus ce petit séjour au Fayoum. Et voilà. Donc là, encore une fois, il va falloir que tout ça tienne dans le format de la collection Poèmes du Port Ajoni, qui a ce rendu très beau et très particulier. Moi, j'aime beaucoup aussi. Ça va aussi avec l'idée qu'on développé là du quotidien, c'est qu'il a tous les livres de cette collection ont un format cahier avec une reliure très simple. Mais
le cahier de quand on était à l'école, hein, en primaire. Là.
Ouais, c'est ça. C'est un format qu'on connaît avec des bouts arrondis, avec du très beau papier, avec une très belle qualité d'impression. Les livres sont imprimés à Marseille. En même temps, voilà, l'idée, c'est qu'il ne peut pas y avoir, comme il y a une reliure agrafe, il ne peut pas y avoir trop de pages. Et tous les livres sont au prix de 9 euros. C'est le choix de l'éditrice, de, quel que soit le nombre de pages, d'avoir un prix constant sur cette collection-là. Donc voilà, ça fait aussi des objets qu'on peut offrir, qu'on peut s'offrir, qu'on peut collectionner, qu'on peut faire circuler et qui circulent aussi un petit peu dans le monde arabe. Donc ça, c'est assez précieux aussi pour nous. Moi, j'ai des livres qui sont traduits en 15 langues, mais aucun en arabe. Donc quand on a ces livres-là, bilingues, français-arabe, ça permet d'avoir une circulation de nos travaux tout autour de la Méditerranée. Et ça, c'est quelque chose de singulier.
Un mot justement aussi sur cette traduction, parce que j'imagine que c'est pas le même rythme. Enfin, comment tu sais que c'est fidèle à ce que tu as écrit ?
Ah, mais ça, je sais jamais. C'est une question de confiance à l'éditeur, au traducteur, à ceux qui savent voyager dans ces deux langues-là. Par hasard, ça a été traduit par Nada Issa qui vit en France. Et on a eu quelques échanges, elle m'a posé quelques questions. Voilà, On a eu cet échange-là. Et Bus 83 est traduit par un poète syrien qui s'appelle Jolan Hadji, qui a aussi publié au Port Ajouni en tant que poète. Donc c'est, moi, je suis assez heureuse d'être traduite par un poète qui a aussi ce sens-là du rythme de la langue. Et des gens que je connais qui parlent les deux langues m'ont dit que c'est une très belle traduction. Donc voilà, il faut faire confiance à la vie et aux gens.
Tout à l'heure, vous parliez de cette pièce, je ne sais pas comment on appelle ça, enfin, au théâtre, d'une lecture dessinée. Bon, une lecture, j'imagine bien ce que ça peut être, mais dessinée pendant une lecture.
Alors, je dessine pour le public, hein, c'est-à-dire que l'action est filmée par une caméra et retranscrite sur un écran. Ça, voilà, c'est assez simple. On commence à connaître ces moyens techniques. Après, c'est un médium qui permet énormément de choses. Voilà, moi, j'avais pratiqué de temps en temps avec des musiciens, par exemple. Il y a cette formule qu'on connaît sous le nom de concert dessiné, qui se retrouve, enfin, voilà, de plus en plus ces dernières années. Et là, avec Par hasard, on a travaillé à trois avec Ramona et Gida et Tevenard, qui va nous rejoindre tout à l'heure, qui est musicien. Et on s'est pris quelques temps pour créer cette lecture qui est une sorte de petit spectacle, hein, voilà, avec des tableaux. Chaque tableau est un texte du livre ou un des textes inédits que Ramona a écrit et qui n'a pas trouvé sa place dans le petit livre. On raconte, enfin voilà, c'est un petit peu comme une nouvelle version du livre qu'on s'amuse à l'appeler la version augmentée.
Et du coup, tu redessines toujours les mêmes dessins ?
La lecture est rodée et je pars vraiment pas dans l'improvisation. Avec des limites parce que chaque dessin est, enfin, deux dessins sont toujours différents, il y a toujours un petit peu de marge, mais ce serait une autre démarche de dire je sais pas où je vais et j'improvise totalement en dessin. Moi, c'est pas quelque chose dans lequel je suis hyper à l'aise, hein. Je préfère vraiment savoir où je vais parce que tout fonctionne ensemble, hein. On est vraiment sur quelque chose une narration assez rythmée avec la musique qui a un timing, le texte qui parfois est très long, parfois est très très court, et donc on est sur un truc un petit peu plus millimétré.
Et à telle phrase, c'est tel trait qui apparaît?
Non, pas à ce point là mais non, il y a toujours du jeu, heureusement. Enfin, ça c'est quand même le plaisir de la performance. Et c'est quelque chose qui est un petit peu nouveau pour les dessinateurs. En général, le dessinateur, il n'intervient pas tellement sur le temps du direct. Il y avait juste, quand on était môme, on voyait Cabu à la télé qui dessinait pendant, je sais plus, l'émission de Dorothée, là. Mais sinon, on voyait rarement la main du dessinateur créer quelque chose en direct. Et c'est marrant parce que maintenant, même si c'est devenu plus répandu, je vois en discutant avec les gens, le public est toujours assez fasciné par ça, quoi, par le spectacle des mains. Souvent, on voit les mains qui dessinent, les mains dessinées, filmées par la caméra. Et si on est à plusieurs dessinateurs en même temps, ce qui peut arriver dans d'autres circonstances, les gens s'amusent à reconnaître ça doit être un tel, la main n'a pas le même dessin mais n'a pas aussi la même, je sais pas, la même souplesse ou même nervosité. On reconnaît un petit peu du caractère du dessinateur ou de la dessinatrice par les doigts également. Et ça, on va pas le voir aujourd'hui avec la lecture Par hasard, mais par contre, en revanche, demain, ça va être la clôture du festival, je sais plus, en fin de journée, je sais plus à quelle heure. Mais il y a une fiesta dessinée et on sera à plusieurs avec Gaëtan, avec Marie, avec Blandine à dessiner, voilà, à composer. Et peut-être que là, il y aura beaucoup d'impro qui va rentrer en ligne de jeu, par contre.
Et t'en fais quoi des dessins après la lecture ?
En général, j'en laisse toujours aux organisateurs, hein, et le reste, c'est à discuter.
Tu détruis ?
Ça dépend. Ça m'arrive d'enfiler au public. J'en garde aussi. Mais bon, enfin voilà, on peut pas tout garder en tant que dessinateur. Hein. Il faut bien redistribuer un petit peu.
Où est-ce qu'on peut vous trouver justement, vous inviter à venir faire cette pièce? Comment on peut vous suivre l'un l'autre?
Alors moi, on peut me contacter assez facilement via mon site internet ramona-badescu.com ou via Instagram où c'est badescu-ramona où je poste régulièrement des petites choses en lien avec mon travail, avec ce que je suis en train de faire. Voilà, c'est des manières assez simples de rentrer en contact.
J'ai à peu près les mêmes moyens classiques. J'ai un site internet, benoitguillaume.org, un Facebook et un Instagram. Donc, on est trouvable très facilement.
Pourquoi vous êtes venu sur ce festival ?
Moi, je connaissais Gaëtan, je connaissais un petit peu Di pour y être venu pour travailler avec Benjamin. Et que j'ai de l'affection et pour le lieu et pour les gens. Une curiosité de rencontrer d'autres gens, de soutenir cette première édition. Et puis, Partir en livre, c'est une manifestation à laquelle je participe tous les ans depuis que ça a été créé et que je trouve assez géniale parce que c'est des manières de sortir des sentiers battus. C'est autre chose que les rencontres qu'on fait dans les classes avec les enfants. C'est autre chose que les conférences que je peux donner pour des publics très particuliers. Voilà, des enseignants, des bibliothécaires, des professionnels du livre, de la petite enfance. C'est encore autre chose. C'est aussi une manière d'ouvrir la porte au hasard et de dire, vous êtes en vacances peut-être, à Die, et puis c'est une occasion assez... où vous habitez Die, où vous intéressez au livre, ou alors vous intéressez absolument pas au livre, mais vous êtes au bord de la rivière, et puis on va pouvoir faire un atelier ensemble. Vous êtes là, vous assistez à une lecture musicale et dessinée, et peut-être que ça ouvre des espaces de conversation, d'échange, de partage inédites entre les gens. Et ça, j'aime beaucoup ça.
Je sais que Gaëtan était particulièrement intéressé par la recherche d'autres spectacles, d'autres formes de lecture dessinée, de ce genre de performance. Donc, on a été invité. Voilà, Ramona connaissait un petit peu plus les organisateurs que moi, mais j'étais aussi enthousiaste, même sans connaître les gens. La région dit, elle m'est familière parce que j'ai habité quelques années à Valence. Je savais que le cadre allait être juste délicieux.
Est-ce que ça mériterait un livre ?
Si on avait un petit peu plus de temps pour y travailler, ouais, avec plaisir. Mais on n'est quand même pas très très éloigné géographiquement et aura sûrement l'occasion d'y retourner.
Un livre, c'est du temps. Et c'est ça qu'il faut trouver pour qu'un livre se passe. Je crois que... Die est une ville dans une région particulièrement belle et impressionnante aussi, avec la présence des montagnes tout autour. Et ça, je pense que ça fait un bel écho avec l'univers de Benoît aussi, qui peint beaucoup et bellement la montagne.
Vous en vivez de votre art ?
On fait que ça et on en vit correctement. Avec les limites que notre statut d'auteur nous impose, parce que c'est un statut assez limité qui ne nous donne pas de chômage, par exemple. Ça, c'est une des limites et qui nous oblige aussi à faire tout, c'est-à-dire gérer et notre travail artistique et la communication avec toutes les personnes, institutions, organisateurs qui nous invitent, et tout l'aspect juridique, paperasse. Bon, voilà, ça fait souvent beaucoup de choses, et c'est plus ou moins facile pour les gens. En tous les cas, c'est une des raisons pour lesquelles on a décidé de créer, il y a un peu plus d'un an, un collectif d'auteurs pour... à la fois s'organiser, discuter de toutes ces conditions, tout ce qu'il y aurait à améliorer dans nos professions. Et on n'en est que... On n'en est qu'au début, c'est un collectif régional qui s'appelle Le Trait. Voilà, plutôt les auteurs de la région sud, hein, sud PACA.
Ouais. Qui peut être utile à tout un tas d'auteurs, d'artistes auteurs en tout cas, qui sont indépendants comme nous, notamment sur l'aspect juridique et social, puisque une des difficultés de nos métiers, comme on est... autonome dans notre travail, on a estimé longtemps, les institutions ont longtemps estimé qu'on devait aussi être autonome dans tout l'aspect juridique et social, tout en ne nous accordant pas un véritable statut. Alors bien sûr qu'on a quand même un statut qui fait qu'on bénéficie de la sécurité sociale, voilà. Mais dans les, par exemple, on est très très loin des intermittents du spectacle. On ne considère jamais que notre temps de travail est un temps rémunérable, à part quand on fait des rencontres, quand on est invité pour des festivals. Ou... Mais disons, le temps de création est rarement pris en compte dans notre rémunération, particulièrement dans le milieu du livre, puisque vous le savez peut-être ou peut-être pas, mais chaque auteur, chaque illustrateur, en faisant un livre... a une avance sur droit, mais c'est une avance qu'il faut rembourser au fur et à mesure des ventes du livre. C'est une sorte de crédit que l'éditeur va faire aux artistes auteurs. Et puis que notre marge sur le livre est vraiment très minime. La moyenne tourne autour de 3% du prix hors taxe du livre. Ça peut aller entre, on va dire, 2 et 5, 10%. Quand on est seul, 10%, ça peut arriver quand on est vraiment tout seul sur le livre. Souvent, et c'est bien que cette question soit posée, hein, c'est souvent ce qui fait que beaucoup d'artistes auteurs sont dans une grande précarité. Nous, on fait partie des gens qui arrivons malgré tout à vivre de notre travail, malgré les irrégularités, parce qu'on ne crée pas chaque année 15 livres, et heureusement, parce qu'on ne va pas non plus saturer... toutes les librairies, mais il faut savoir quand même qu'en France, notamment en littérature jeunesse, c'est 6 000 à 7 000 nouveaux livres qui paraissent chaque année, avec une rapidité de destruction et de turnover des livres qui font que même les librairies spécialisées n'arrivent pas toujours à suivre. Donc du coup, voilà ce qu'on essaye de dire, c'est qu'on a besoin de temps pour créer, qu'on a besoin que ce temps soit reconnu comme un temps de travail, qu'on a besoin de plutôt être mieux rémunéré et qu'on nous demande moins de productivité rapide, donc que les éditeurs puissent entendre de ne pas sortir autant de livres en permanence, et ça les libraires le demandent également, puisqu'on ne peut pas défendre pareil 6 000, 7 000 nouveaux livres chaque année, mais que tous les gens qui font des livres, qui créent des livres, ont besoin de ce temps de création précieux, de concentration. Et c'est vrai qu'il y a eu ce fameux rapport Racine, qui est un rapport où enfin on s'est senti entendu. C'est un rapport que le gouvernement a demandé et qui n'a pas été malheureusement appliqué. Il a été même plutôt caché à sa sortie, qui fait le constat des conditions dans lesquelles on crée aujourd'hui. Et ce qu'on soutient aussi avec notre collectif régional, le Trait, c'est l'application tout simplement d'un rapport d'État, demandé par l'État, fait par l'État. On demande simplement à ce qu'il soit maintenant appliqué.
Ben merci, parce que moi, je n'étais pas au courant. Je pense qu'il y a quand même un paquet de gens qui ne le savent pas. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose?
Venez à Adi Hawaii.
Ouais, venez ce soir, venez demain. Ça va être deux journées assez pleines. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a notre lecture dessinée, un spectacle.
À quelle heure?
C'est à 20h. Il y a du dessin sur vitrine à 17h et ça va être un petit peu ambiance impro, impro dessin également. Demain, nous, on sera avec Ramona au bord de la rivière à donner des ateliers écriture et dessin. Et le soir, donc, la fiesta dessinée. Et peut-être que j'en oublie d'autres, j'en oublie encore. Enfin, ça va être deux journées très concentrées, très pleines. On espère vous voir, tout le public, les copains de Romois, s'il y en a qui passent par là. Et voilà. Merci de nous avoir invités.
Merci d'avoir pris ce temps aussi pour nous.
Merci beaucoup.
Interview.
Okay. The bird.